Alors avant de commencer la prédication, la parole qui a été préparée, je vais raconter une note qu'on m'a envoyée par Internet par une sœur de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, qui est en Côte d'Ivoire. Alors il paraît qu'il y a un homme qui est parti, qui a fait un tour au ciel. C'était en anglais, bon je traduis. Et il est arrivé là-bas, c'est un ange qui le faisait faire le tour des bureaux du ciel. Et on l'a amené dans les bureaux consacrés à recevoir les prières. Donc, elle a vu une grande activité. En fait, cette personne, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, en tout cas, cette personne a vu une grande activité. Et c'était un grand bureau avec beaucoup d'anges qui s'affairaient à recevoir les prières, à les lister, à les gérer en fonction des besoins. Donc, et il y avait beaucoup d'anges qui travaillaient. Et puis, on l'a amené dans un autre département qui était aussi très grand. C'était le département chargé d'envoyer les bénédictions liées aux prières. Et donc, il y avait beaucoup d'anges qui travaillaient, donc qui envoyaient les bénédictions à chacun en fonction de la prière. Et puis après, on l'a amené dans un département où il y avait un bureau. J'ai oublié s'il était grand, mais en tout cas, il n'y avait qu'un seul ange et qui s'ennuyait, qui était là un peu triste. Et puis, un peu énervé aussi, quoi. Donc, on lui demande, mais pourquoi toi tu es dans cet état-là? Ce bureau-là, c'est quoi? Et l'ange dit, mais c'est le bureau des reconnaissances. Mais il dit, mais la personne dit, mais pourquoi tu travailles pas? Mais il y a aucun boulot, puisque les gens ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu, ils remercient pas Dieu. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Je n'ai pas de travail. Et j'ai dit, mais en tant que pasteur, je sais que c'est la vérité, quoi. Je sais que les gens, les humains sont ingrats. Ils ont beaucoup plus de sujets pour se plaindre que pour remercier. Et cet ange-là, qui était seul, un peu en colère, a commencé à expliquer à cette personne-là que lorsqu'on est sur terre et qu'on a un compte bancaire, on fait partie peut-être des 10% seulement de la terre qui ont un compte bancaire. Parce que c'est pas tout le monde qui a un compte bancaire. Si on fait le nombre de, on calcule le nombre de personnes sur la terre, ceux qui ont un compte bancaire normal, ben, ce sont eux qui sont les plus minoritaires. Et donc, lorsqu'on a un compte bancaire, cet ange, parce que la personne a demandé à l'ange, mais que faire pour remplir ce bureau-là? Il a dit, il suffit de dire merci au Seigneur. Ah, il n'y a que ça, oui, oui. Donc, de dire merci au Seigneur. Eh bien, cet ange a commencé à lui expliquer, lui donner quelques exemples pour l'aider à savoir dire merci. Il dit, mais est-ce que tu te rends compte que les gens qui ont un compte bancaire, ils sont les plus minoritaires, peut-être moins de 10% sur la terre. Il lui explique, est-ce que tu te rends compte que les gens qui ont deux parents en vie, ils sont minoritaires, très minoritaires. Les gens qui ont en plus deux parents en vie, mais toujours mariés, c'est encore plus grave. Donc, il lui expliquait chaque point où on se retrouve, mais où on croit que la vie est comme ça. Or, on est très minoritaire à avoir cette vie-là. Donc, on est privilégié. Donc, il expliquait que chaque humain, la plupart des humains, surtout qui sont dans les pays comme les nôtres, nous sommes hyper privilégiés et nous ne nous en rendons pas compte et nous manquons de sujets de remerciements. Nous sommes là qu'à bouder et à se plaindre. Il y a des gens qui sont esclaves d'antidépresseurs. Ils sont embêtés. Il y a des gens qui ont une sorte de pharmacie personnelle. Ça doit avoir un nom. J'ai oublié le nom. C'est une sorte de tiroir, de petits coffres avec un couvercle qui. Ça s'appelle comment? Pardon? Pilulier, mais il y a aussi un autre nom. Il y a aussi un autre nom. Donc il y a le pilulier, mais c'est comme une pharmacie avec une liste de médicaments. Un jour, on priait même pour une sœur. Pendant qu'on priait, elle file vite prendre son médicament. Donc c'est pour dire comment certains sont liés par les médicaments et toi, tu n'es pas lié par les médicaments. Donc tu as beaucoup de sujets de remerciement et notre ange attend que cela, donc pour avoir du boulot. Et bien aimé, il y a des gens qui souffrent parce que leur fils ou bien leur fille n'arrive pas encore à dormir tout seul. Donc il faut toujours dormir avec les parents sur le même lit Et il y en a qui prient pour ça, pour que ça change. Et toi, ça s'est fait facilement, tu t'en rends pas compte. Il y a plein de sujets, bien-aimés. Il y a plein de sujets. Donc, soyez dans les milieux des parents, vous allez voir beaucoup de sujets d'inquiétude par rapport aux enfants que quelqu'un qui n'a pas des enfants ne comprendrait pas. Mais voilà. Donc, il y en a qui veulent que leurs enfants aillent au pot. Et ça les embête. Chaque jour, c'est un problème. Et quand ça arrive, on oublie, mais tiens... C'est pourquoi aux États-Unis, quand un enfant marche à quatre pattes, c'est une fête. Donc, dès qu'un enfant marche à quatre pattes, aux États-Unis, c'est une fête. Parce que ça ne peut pas venir d'un homme. C'est la grâce de Dieu. Et c'est très important de reconnaître toutes ces choses-là, de revenir à la reconnaissance et de donner du boulot aux anges, quoi. Donc, l'ingratitude ne peut que nous amener à la mort. On te donne une main, eh bien, tu n'as pas encore utilisé la main, tu veux déjà le bras. Commence par utiliser la main qu'on t'a donnée. Commence par utiliser les grâces que Dieu t'a données, le souffle de vie. C'est très important. Et lorsque je vois, hier quand je suis descendu de chez moi, j'ai vu les chiens des voisins bien-aimés. Ils étaient dans une joie totale. Donc même les chiens, parce que le climat a changé, ils étaient en train de sauter, de courir. Donc, ils étaient plus les mêmes. Je me suis dit, mais donc, malgré nos maisons confortables, avec des papiers peints compliqués, les gros haut-parleurs, écran plat, le chien n'est pas content. Il attend que le soleil vienne. Bien aimé, ce que Dieu a fait est puissant. Donc, on se rend compte. Voyez comment même beaucoup de gens... Ces derniers temps sont un peu heureux parce que le temps a changé. Le temps a changé. Ils sortent dehors. Et c'est comme si la vie recommençait. Pourtant, c'est des gens qui ont de l'argent, qui ont des belles maisons, mais ça ne suffit pas. Ce que Dieu a fait pour donner la vie à l'homme est plus puissant de loin que ce que l'homme peut construire. C'est vraiment une réalité. Et tout le monde se retrouve bien que dans la nature. Dans la nature. C'est là qu'on se retrouve bien, parce que ça a été fait pour nous. C'est différent quand on achète un vêtement prêt à porter et un vêtement taillé sur mesure. Quand c'est taillé sur mesure, c'est fait pour toi. Il n'y a pas d'erreur. C'est fait pour toi. Et la nature a été faite pour nous et il n'y a pas d'erreur. C'est pourquoi il y a tellement de joie de se retrouver dans la nature. Même les fous, on les amène dans la nature pour qu'ils respirent l'air, ils soient près des herbes, du paysage. C'est parce que la nature a été faite pour nous guérir, pour nous donner la paix, pour nous donner la joie. Et tout ce qu'on peut inventer n'est que passager. C'est pourquoi ma prière, c'est que nous puissions chercher les choses d'en haut. Puisque Dieu connaît ce qui peut satisfaire vraiment nos cœurs, ce qui peut satisfaire vraiment nos vies, c'est vers lui que nous devons aller pour dire, Seigneur, c'est vrai que mon corps, ma chair, mes raisonnements pensent que je serai satisfait par la chose A. Mais si toi tu ne penses pas que c'est vrai, donne-moi le B que toi tu as prévu, parce que je sais que ton B à toi va réellement me satisfaire. Comme Jésus a dit, quiconque mange de Jésus n'aura plus jamais faim. Quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Donc il sait quoi donner pour nous apaiser. Mais entre-temps, il y a un combat, puisque la chair pense que nous devions prendre telle ou telle autre chose pour être heureux. Mais c'est une erreur, et les gens qui nous ont précédés, et nous-mêmes, nous avons payé cette erreur pendant certains moments. Donc, c'est une erreur de croire que ce que la chair réclame, c'est ça qui va vraiment nous satisfaire. Et même si la réclamation est forte, nous devons toujours aller vers Dieu, dire « Seigneur, c'est vrai que ma chair réclame telle chose, mais toi, tu es prêt à me donner ce qui est pur et fort et qui va vraiment me plaire, me satisfaire. Que Dieu soit béni. » Donc, je veux reparler, parce que j'en ai déjà parlé, on a même fait un séminaire, mais comme je suis obéissant à Dieu, je vais reparler encore de l'argent. Donc, nous lisons dans Zacharie 14. Pourquoi j'en parle? Parce que, en cherchant à lire Zacharie 14, à faire une lecture, ma lecture quotidienne de la Bible, ben je suis tombé sur Zacharie 14, que je connais déjà à peu près, puisque ça part du retour de Jésus qui viendra délivrer Israël. Zacharie 14, après le livre d'Exode, pour ceux qui ne connaissent pas. Zacharie 14. Le Seigneur va descendre sur va mettre ses pieds, poser ses pieds sur les monts des Oliviers et il va libérer son peuple. Tôt ou tard, Israël connaîtra la paix. Jésus-Christ sera son prince. Et la Bible dit au verset 9, ce n'est pas notre sujet, mais nous lisons quand même un tout petit peu. Au verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Donc, nous n'allons pas tout lire, mais le sujet c'est que l'Éternel est vainqueur de toutes les nations qui assiégeaient Israël. L'Éternel est vainqueur de tous les ennemis d'Israël et c'est lui seul qui reste maintenant Dieu. Et nous arrivons au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes de chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Alors, voilà le verset qui a attiré mon attention. Le verset 21 à la fin. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Je me suis dit, tiens, donc même au retour de Jésus final, Jésus-Christ réglera le compte de tous ceux qui font le commerce dans la maison de Dieu. Donc on voit dans le Nouveau Testament qu'il a fait. Et là, dans l'Ancien Testament, on prédit que quand Jésus-Christ reviendra, il réglera le compte de tous ceux qui font le commerce dans sa maison. Donc cette histoire d'argent est une histoire grave. C'est une histoire sérieuse et je m'en suis rendu compte puisque on en parle même dans la prophétie messianique, donc par rapport au retour du Seigneur. Et je me suis dit, donc il faut qu'on en parle encore de ce Jésus qui est vainqueur jusqu'au dernier moment de Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu qui donne le vertige à l'humanité, le Dieu de l'argent. Et nous en avons déjà parlé. Je vais rappeler un peu, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est un moyen pour acquérir des choses, acquérir des places, et acheter et se payer parfois des protections. Enfin, c'est un moyen qu'on utilise pour répondre à des besoins matériels. Et à cause de cela, comme l'homme est lié par la convoitise, l'homme normal est lié par la convoitise de la chair, c'est-à-dire tout ce qui veut satisfaire la chair, la nourriture, le vêtement, ainsi de suite, et que c'est l'argent qui sert d'intermédiaire pour acquérir ces choses, la convoitise des yeux, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir par les yeux qui nous attire, les voitures et autres, et même les humains, eh bien l'argent sert aussi à acquérir ces choses-là. Finalement, l'argent est devenu comme un dieu, et c'est un dieu finalement, puisque il devient l'instrument de choix pour pouvoir acquérir ce dont on a besoin. Et à cause de ça, l'argent est devenu aussi une sorte de protection, un dieu protecteur. Parce que plus tu as l'argent, plus tu peux mettre les bons alarmes, tu peux avoir des gardes du corps, plus tu as l'argent, plus tu es dans ce qu'on appelle en France la protection. En France, quand on dit le mot protection, il s'agit pas seulement de la protection par rapport aux bagarres ou à des coups ou à des armes, c'est la protection par rapport à la vie. C'est-à-dire que même si tu perds ton travail, tu es protégé parce qu'il y a un organisme qui va te payer le temps que tu retrouves ton travail. C'est ce qu'on appelle la protection sociale. Donc l'argent est devenu aussi un instrument de protection sociale. Et donc, par rapport à cela, il est devenu davantage encore Dieu en France et dans les autres pays. Mais bon, c'est plus en France que dans les autres pays parce que beaucoup de pays n'ont pas le système de protection sociale de la France. Donc, pour un riche, l'argent remplit tous ces rôles-là. Il remplit le rôle du Dieu pourvoyeur. Donc, grâce à l'argent, je peux m'acheter ce que je veux. Il remplit aussi le rôle du Dieu protecteur. Grâce à l'argent, je peux me protéger. Je peux m'acheter un appartement dans un quartier très riche ou qui est bien gardé. Avec l'argent, donc, on peut se protéger. Avec l'argent, on l'avait dit pendant le séminaire, on peut aussi acquérir des pouvoirs. On a du pouvoir avec l'argent. On peut, donc, contrôler des gens avec l'argent. On peut acheter des caméras, mettre partout pour surveiller les gens. Donc, avec l'argent, on a aussi le pouvoir. Et le Seigneur nous a montré qu'il fallait pas servir deux maîtres. Donc, dans Matthieu 6, il dit, on ne peut servir deux maîtres, ou on s'attachera à l'un, et on haïra l'autre, ou vice versa. Donc, il faut faire son choix. Maintenant, pendant que les prix montent, nous sommes obligés de reparler de l'argent pour faire bas la terre, pour calmer les chrétiens, pour dire que ce n'est pas le moment de céder par rapport à l'argent. Soit, en ce qui concerne la peur, on se dit, on n'est plus protégé, les prix sont en train de monter en flèche. Non. On ne doit pas céder à cette panique-là. On ne doit pas non plus céder à l'argent dans le sens de le faire devenir un dieu et de le chercher à tout prix pour pouvoir acquérir des choses dont on a besoin. Non, on doit rester calme dans la ligne de la Bible. Ça, c'est pour le chrétien, tout chrétien. Après, pour les serviteurs de Dieu, c'est là vraiment mon sujet principal. Il faut faire attention, il faut surtout pas céder à tout ce qui est commerce dans l'œuvre de Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, les gens, ils font du commerce à tous les niveaux, à tel point que dans une, est-ce que je peux appeler ça affiche, un communiqué qui fait la pub d'un meeting d'un serviteur américain de deux jours, une sorte de rencontre de deux jours à Johannesburg, en Afrique du Sud. Vous savez, quand vous lisez le communiqué, le seul mot spirituel que vous allez trouver dans le communiqué, c'est le mot « changer de vie ». Bon, changer de vie aussi, il y a des gens qui peuvent dire, mais où est-ce que c'est spirituel? Parce qu'on peut aussi changer de vie dans le mauvais sens. Mais en tout cas, il y a le mot changer de vie. Moi, je me suis dit, j'ai été gentil, j'ai dit, ça au moins c'est spirituel. Mais tout le reste, la grande partie, vous savez, de l'invitation, c'est quoi? On vous dit, l'Afrique est l'une des destinations les plus prisées actuellement. Et en Afrique du Sud en particulier, il y a de bons restaurants, de bons hôtels, de bons musées. Moi, j'ai dit, mais alors là, c'est la totale. Donc, on invite des gens à une conférence chrétienne en leur expliquant qu'il y a des bons musées là où ils vont et des bons restaurants et tout le tralala que l'Afrique, c'est un continent très prisé actuellement comme destination touristique. Bon, lorsqu'on lit un tel communiqué, on comprend l'ère du temps. On comprend dans quel temps nous vivons. Nous vivons dans le temps du commerce. Donc, il faut inviter les riches qui veulent faire un tour dans les musées. Et quand ils vont venir en grande quantité, on va leur vendre des livres écrits par l'homme de Dieu, les DVD faits par l'homme de Dieu, et puis bon, on empoche les restes. Et puis, il y a même une annonce à côté, si vous voulez faire un cadeau de cette conférence à votre grand-mère, puisque ça coïncide avec la fête des grand-mères. Donc, si vous voulez faire un cadeau à votre grand-mère, voilà, vous avez une réduction de 30%. Parce qu'il faut payer. Déjà que tu payes ton ticket, mais il faut aussi payer pour assister à ça. Donc, à part tout le reste que tu payes. Alors, bien aimé, ça ne serait pas étonnant que ces gens-là soient en relation avec une agence de tourisme qui va leur faciliter la tâche et ils vont. Ça, ce n'est pas étonnant, bien aimé. C'est le commerce qui s'enracine dans l'œuvre de Dieu. Nous devons résister à ça. Nous devons résister à ça. On ne peut pas marchander les biens spirituels. Donc, nous revenons sur l'argent. Je vais donner quelques points. J'ai fait exprès de ne pas aligner les points parce que je sais que c'est un sujet vaste. Je vais dire que c'est que ce qui me viendra à l'esprit. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous voyons une réalité, bien-aimée. C'est quoi? C'est que les grands serviteurs de Dieu, les vrais, les prophètes, il n'y a presque pas un seul qui a été vraiment très riche. Ou même riche. Il n'y en a pratiquement pas. Il y en a qui vont citer David, mais David n'était pas seulement prophète, il était roi. Donc c'est normal en tant que roi qu'il ait un palais royal, mais quand on voit le comportement de David, ça ne ressemblait pas non plus à quelqu'un de riche. Voilà. Donc il y a Salomon, mais on a vu maintenant où Salomon a fini. Donc le cas d'une grande richesse par rapport à un serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament, je parle bien de gens très proches de Dieu, il n'y a que Salomon. Mais Salomon, on a vu comment il a fini à cause de l'argent. D'ailleurs, nous allons lire ça. Quand on voit le cas d'Élie, Élie n'avait tellement rien qu'un corbeau l'a nourri. Pourtant, quand Jésus a été transfiguré, qui est apparu à côté de Jésus? C'était Élie et Moïse. Lorsqu'on voit le cas de Moïse, nulle part dans la Bible, on parle de lui comme quelqu'un qui était riche, qui était bien habillé, ainsi de suite. Bien-aimé, je dis bien, je suis pas contre l'argent dans le sens où un instrument pour avoir des choses, mais je suis contre le fait qu'il domine. Donc, je suis pas en train de prêcher la pauvreté, je suis en train de prêcher la vérité, le retour à la Bible. Dieu pourvoit nos besoins, il est bon, il est Dieu, et il est notre Père. Il ne peut que vouloir qu'on ait ce dont nous avons besoin. Mais je continue. Donc, lorsqu'on voit la vie d'Élie, Élie n'avait pas une vie de sécurité, de protection sociale, avec beaucoup de choses en réserve en grande quantité. Il n'en avait pas. Il avait une vie très simple. Parce que la gloire déjà d'être un prédicateur, c'est déjà grand. Quand tout le monde, des rois, viennent te consulter, c'est déjà, ça donne déjà le vertige. Ça a rendu beaucoup de gens fous. Rien que le fait de prêcher, c'est déjà une gloire. En plus de ça, que l'argent vienne par-dessus, ça devient compliqué. Et pour que Dieu, d'ailleurs, permette que tu accèdes à ces choses-là, il va vraiment te purifier. Et comme ce fut le cas aussi de Joseph, Joseph a été tellement travaillé dans la souffrance que quand il est devenu premier ministre, on ne voit pas en lui quelque chose d'orgueilleux ni d'exagération par rapport à la richesse. Daniel, pareil, on ne parle pas de lui comme ayant une richesse exagérée ou manifestant cela. Au contraire, il vivait dans le palais royal, mais il mangeait pas les mets du roi. Donc, même tous ceux qui ont occupé des postes gouvernementaux, même quand ils sont devenus riches, on a vu qu'ils avaient une sorte de modération dans leur vie. À part Salomon, qui n'avait pas de modération et qui finalement qui a fini mal. Donc, l'Ancien Testament même nous est témoin. Élisée, il guérit un général de la lèpre. Et le général avait amené une grande quantité de bijoux, une grande quantité d'or, de pierres précieuses. Le général donne à Élisée. Élisée dit non, je ne peux pas prendre cet argent. Parce que si je le prends, c'est comme si c'est moi qui ai guéri cette personne-là. Je ne prends pas. Donc, la gloire de la guérison revient à Dieu seul. Maintenant, si on veut aider, quelqu'un voulait aider Élisée, en dehors du miracle qu'il a fait, il n'aurait peut-être pas refusé. Mais là, on a voulu, comme si, acheter le miracle qu'il venait d'accomplir. Donc la personne qui venait de guérir voulait le payer. Jésus, Élisée a dit non, on ne peut pas payer les choses spirituelles parce que c'est Dieu qui les donne. Maintenant, si on veut soutenir l'homme de Dieu d'une manière différente, en temps normal, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas au moment où il vient de guérir, où il vient de faire l'acte qu'il faut lui donner comme un échange. Parce qu'après, vous savez, Élisée était conscient que s'il prenait l'argent, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait se passer une chose, c'est que son autorité allait être abaissé, diminué. En prenant cet argent, le général redevenait général. Or, le général était humilié. Élisée lui a dit, va te laver 7 fois. Donc, il avait fait du général quelqu'un de brisé pour bien connaître Dieu. Maintenant, s'il prenait l'argent, il annulait l'humiliation du général. Le général reprenait le poste de général de riche et Élisée un poste de petit homme. Élisée a voulu garder son autorité, le respect de la parole de Dieu, à tel point que le général, quand il est parti, il a dit, Élisée, pardonne-moi, là où je vais, moi je vais commencer à adorer ton Dieu, mais je suis obligé, comme je suis général, quand le roi adore son faux dieu, que moi aussi je le fasse. Pardonne-moi à l'avance. On voit le respect qu'a manifesté ce général vis-à-vis d'Élisée, parce qu'Élisée n'a pas pris l'argent. Donc l'argent, c'est quelque chose de dangereux qui vole l'autorité, qui abaisse l'autorité. Et les serviteurs de l'Ancien Testament étaient très très prudents, très très prudents. Même Daniel, quand on a proposé de l'argent par Belshazzar, vous savez, Belshazzar, c'est le roi qui croyait qu'il était devenu fort, et Dieu a envoyé un doigt qui a écrit sur le mur, tu es pesé, tes jours sont comptés. Et Daniel avait expliqué, donné l'interprétation de cette écriture-là. Et Belshazzar avait promis à Daniel de l'argent, de l'or. Daniel a dit, garde ça pour toi, j'en ai pas besoin. C'est bien aimé. Donc les serviteurs de l'Ancien Testament savaient, connaissaient le danger de l'argent. Parce qu'ils vivaient une époque où il y avait, sur 100 prophètes, 10 étaient vrais, 90 c'était des prophètes du ventre. Des gens qui prophétisaient en fonction de l'argent. Ils vivaient la même époque que nous. C'était toujours la même chose. Et ils savaient que quand on touche à ce domaine-là, au domaine de l'argent, d'une manière humaine, on finit toujours très mal. Ils étaient très prudents. Donc mon exhortation, c'est que nous revenions à la même prudence par rapport à l'argent. C'est très important. Après, je vais donner des exemples, parce que mon thème, c'est Jésus-Christ vainqueur de Mammon. Après, je vais donner des exemples sur Jésus lui-même. Maintenant, on va lire le cas de Salomon avant de passer maintenant au témoignage du Seigneur, notre Dieu. Nous prenons un roi, au chapitre 11, je crois. Un roi, chapitre 11. Le roi Salomon aima... Non, avant de d'arriver là, on prend le chapitre 10 au verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 sicles d'or, et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 3000 d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les six marches de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait le chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 sicles d'argent et un cheval pour 150 sicles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Étrangère. Salomon, parce qu'il avait donné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi. Et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je le resterai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Voilà l'histoire de Salomon, comment ça se termine. Donc, il a été le plus riche de tous les rois de la terre. Et cette richesse l'a amené à s'attacher aux choses de ce monde, et finalement, il s'est attaché à des femmes étrangères qui l'ont détourné de Dieu. Donc, on voit un exemple concret du fait que la richesse fait tomber un grand. Quand je dis un grand, donc c'est quelqu'un qui a connu Dieu, qui a eu des visions que de rares personnes ont eu de Dieu. Salomon était connu pour sa sagesse, pour son amour pour le Seigneur. Bien-aimé, mais l'argent a détruit tout cela. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a insisté aussi sur l'argent. Et Jésus nous a donné une victoire totale sur l'argent. Alors je vais lire quelques conseils de Jésus qui est vainqueur véritablement de l'argent. À travers ces conseils, nous sentons qu'il a compris qui était l'argent et comment le vaincre. Et nous n'allons pas reprendre la scène où il a frappé les vendeurs du temple. Donc, nous le connaissons assez. Donc, il a déterminé par là que son vrai ennemi, c'était l'argent. Nous prenons Luc 16. Luc 16. Qu'est-ce que le Seigneur dit à partir du verset 9? Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si vous donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus-Christ, donc, donne cette parabole de l'économe infidèle pour expliquer que l'argent que Jésus-Christ appelle richesse injuste, nous devons le servir à faire quoi? À nous faire des amis dans les lieux éternels. Nous devons utiliser l'argent pour adorer, faire plaisir à Dieu. Mais comment Dieu prend-il plaisir lorsque notre argent sert à aider les autres, lorsque notre argent sert à contribuer à l'avancement de son œuvre sur la terre? C'est comme ça que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir lorsque notre argent sert aussi à subvenir à nos besoins. Dieu prend plaisir parce qu'il y a des gens qui aiment tellement l'argent qu'ils ne subviennent même pas à leurs propres besoins. Donc l'argent est devenu quelque chose comme une belle statue à contempler, quoi. Donc Dieu prend plaisir lorsque nous mangeons bien. Tu as l'argent, mange bien. Tu ne peux pas avoir l'argent, tu manges comme un pauvre. Non. Donc Dieu prend plaisir lorsque nous utilisons l'argent aussi pour nous, pour que nous soyons heureux. Dieu prend plaisir lorsque nous utilisons l'argent pour l'adorer à travers les offrandes. Alors donc Jésus nous donne un bon conseil. Si tu as de l'argent, fais-toi des amis avec Dieu. Fais de Dieu ton ami à cause de cet argent. Comment? En lui demandant, Seigneur, que veux-tu que je fasse de cet argent? Et le Seigneur te conduira comment gérer cet argent. Mais lorsque tu veux comme cacher l'argent, tu veux dire, mais que le Seigneur ne voit pas comme ça, je vais gérer ça comme je veux. Bien aimé, Dieu voit tout. Il voit même dans les poches. Donc, il voit tout. Donc, on ne peut pas cacher l'argent. On te donne l'argent ou bien tu reçois ton salaire. Tu fais comme si Dieu ne voyait pas. Tu glisses ça rapidement dans le sac. C'est inconscient, hein? Mais on fait comme si Dieu n'a pas vu. Et on se dit, bon, je vais gérer ça comme je veux. Ou alors, on se crée rapidement des raisonnements pour que le Saint-Esprit ne parle pas. Donc, dès qu'on touche l'argent, ah oui, je dois payer telle chose. Ah oui, j'ai un retard dans ceci. Ah oui. Donc, tu te crées une liste de choses pour empêcher de bon Saint-Esprit. Là, il n'y a plus à dire. Donc, tout est réglé là. Donc, comprenez-moi. C'est comme si on parlait avec Dieu. Tu dis à l'avance, comprends-moi. Et on se crée. Et si on sait qu'il y a quelqu'un à aider, rapidement, on se crée un raisonnement. Lui aussi, il exagère. Donc, donc on fait en sorte que Dieu ne puisse plus parler. Donc, on a déjà trouvé la solution. Ces gens-là exagèrent. Et c'est aussi l'épreuve de Dieu. Ils n'ont qu'à comprendre. Non, bien-aimé. Il faut faire de l'argent un ami avec Dieu. Donc, tu as l'argent, tu es calme. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais de quoi avec? N'aie pas peur. Parce que beaucoup ont peur que, parce qu'ils se disent, Dieu, comme il est bon, il fera en sorte seulement que ça part cet argent. Donc, il va vouloir que j'aide, il va vouloir que ça parte. Non! Dieu va vouloir ton bien. Parce qu'il sait que c'est lui la source. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Jésus nous donne un bon conseil. Faites de Dieu un ami à travers l'argent que vous avez. Et vous verrez les choses changer. Et vous verrez que vous ne manquerez même de rien. Il nous donne de bons conseils. Donc ça, c'est par rapport à que faire de l'argent. Mais on va y revenir. Nous prenons encore un texte où le Seigneur nous parle de l'argent. Luc 12. Verset 13. Nous allons voir la gravité de ce que le Seigneur dit. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Voilà un autre conseil du Seigneur. Dans les conflits par rapport à l'argent, dans le problème de prêt, parce qu'on ne va pas lire tous les versets, certains je vais les citer comme ça. Jésus-Christ dit ailleurs, quand tu prêtes, ne t'attends pas à ce qu'on te rembourse. Donc nous sommes toujours dans cette logique-là, avec cette parabole. Conflit par rapport à l'argent. On vient voir Jésus, Jésus, mais partage-nous notre héritage, parce qu'on se dit, tiens, comme il est bon, il est juste, il va bien partager. Et comme il va bien partager, il va me donner ce qui me revient. Est-ce que c'est mauvais ça, de partager son héritage? Ce n'est pas mauvais. Mais écoutez la réponse de Jésus. Qui m'a établi juge entre vous pour partager vos héritages? Qu'est-ce que Jésus dit? Gardez-vous de toute avarice. Donc, Jésus-Christ, ce que nous on trouve juste, c'est-à-dire qu'on se partage l'héritage, Jésus-Christ trouve que si cet homme-là cherche ça, peut-être qu'il se dit en lui-même qu'il cherche son droit. Mais Jésus a dit, gardez-vous de toute avarice. Donc Jésus veut nous transporter dans une autre logique par rapport à l'argent. Nous ne devons pas dépendre des hommes par rapport à l'argent. Dépendre des hommes, c'est de l'avarice. Cet homme-là, pour lui, c'était son argent parce que c'était son héritage. Alors, quelqu'un l'avait pris. Donc, lui, pour être heureux, il fallait qu'il récupère son argent. Et Jésus appelle ça l'avarice. Pourquoi? Parce que un vrai chrétien doit dépendre du ciel par rapport à l'argent. Quelqu'un t'a volé, ben, si les autorités du pays, de la ville, se charge de suivre cette affaire et de régler la question et de te rendre ce qui t'est dû, gloire à Dieu. Mais si la personne ne te rend pas, Dieu te le rendra. Le but, c'est quoi? C'est montrer la supériorité par rapport à l'argent. Prouver que nous avons vaincu le Dieu argent. Le but de Jésus a été toujours profond et puissant. Et il veut nous amener dans une gloire qu'un homme normal ne peut pas avoir. Parce qu'un homme normal n'a de gloire que quand son compte bancaire est rempli. Mais nous, on peut avoir la gloire sans un compte bancaire rempli. Et c'est ce qu'il veut nous enseigner, qu'on peut vivre chaque jour de la grâce du ciel. Et on va lire cela. Il dit, vous avez des problèmes comme ça? Ben laissez-leur partir avec cet argent. S'ils veulent pas rendre, laissez-les partir avec. Vous prouverez ainsi que vous ne dépendez pas d'eux. Sinon, c'est de l'avarice. C'est-à-dire, l'avarice, c'est quoi? C'est les gens qui ferment les poings. Donc, ils veulent pas lâcher. Faut pas que ça sorte. C'est ça, l'avarice. Or, le Seigneur nous dit, on te gifle à droite, tu donnes l'autre joue, on te prend un manteau, tu donnes encore la veste. Donc, il nous exhorte à ne pas être avare, à ne pas garder nos biens. On les prend. Il y en a qui vont dire, mais c'est de l'irresponsabilité. Non. C'est de la responsabilité parce que c'est la vérité. Parce que Jésus, Dieu s'occupe de ramener, multiplier par 5 tout ce qu'on t'a pris, multiplier même par 10. Je ne dis pas que s'il y a des procédures légales, qu'on doit les arrêter, mais laissons les procédures légales entre les mains des païens, nous soyons dans la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais oui, même problème comme on a posé à Jésus, pasteur, j'ai un problème, je dois partager quelque chose avec quelqu'un, c'est mon droit. Moi j'ai dit, la Bible ne nous dit pas ça. Comme vous avez déjà engagé, avant que tu me contactes, vous avez déjà engagé une procédure avec les avocats, laisse les avocats régler ça. Toi, ne t'occupe plus de ça. Parce que, bibliquement, si on nous prend quelque chose, on ne doit pas réclamer. Voilà. Tu laisses, comme il y a une procédure qui a commencé, toi ne mets plus pied à cette procédure, laisse les avocats continuer les affaires. Voilà un exemple de puissance que le Seigneur nous accorde. Une victoire nette sur l'argent. Quand tu es dans cet état-là, tu es tranquille, bien-aimé. Tu es tranquille parce que Dieu lui-même s'occupe de protéger les biens que qu'il veut que tu gardes. Moi, dans ma famille, on a le même problème. À un certain moment, deux membres de famille ont voulu dilapider l'héritage. Ah, on m'a appelé ici d'urgence et puis je me suis dit, bon là, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il fallait peut-être aller rapidement, aller défendre les biens. Mais je me suis souvenu de la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, non. Je vais prier, c'est toi qui va me guider. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, c'est bien là, si vous les avez conservés, c'est grâce à moi, parce que pendant que c'était plus chaud que ce que tu vis maintenant, personne n'avait pris ces biens-là. Et tu ne pouvais même pas voyager et aller dans ton pays d'origine, je les avais protégés. Ce n'est pas maintenant que c'est moins chaud qu'avant qu'ils vont les prendre. Sois tranquille et je m'occupe du reste. J'ai appelé les sœurs et frères avec qui je suis dans la même logique. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Dieu m'a dit qu'il l'a protégé au moment où c'était compliqué à protéger. Ce n'est pas maintenant que ça sera pris. Effectivement, les deux complices, à un moment, ils se sont pas entendus. Ils se sont disputés pour un autre bien et l'affaire s'est noyée tout seul. Dieu parle et Dieu est tout puissant. Quand il parle, il dit que je m'en occupe, il s'en occupe. Alors, si aussi il décide que ça parte, puisque nous, on en aura encore. Voilà. Dieu est le Dieu des richesses. Ce n'est pas un Dieu pauvre. Donc, changeons de comportement par rapport à tout ce qui est conflit par rapport à l'argent. Tu as prêté à quelqu'un, ne t'attends pas à ce qu'il rembourse. Voilà la Bible, c'est ce qu'elle dit. Jésus dit attention à l'avarice. L'avarice, c'est toujours réclamer ce qui est à nous. Oh, Jésus nous demande de lâcher ce qui est à nous, de lâcher, parce que lui va nous donner encore. Nous continuons encore un exemple de la puissance du Seigneur face à l'argent. Verset 22, donc nous restons dans le même chapitre. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous, vous, pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lis. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus votre raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Le Seigneur est clair. Il nous dit que ce sont les païens, les incrédules, qui doivent s'inquiéter, qui cherchent qu'est-ce qu'ils mangeront, comment ils paieront le loyer. C'est eux qui doivent souffrir dans leur tête parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Vous, vous n'avez pas à souffrir ainsi. Parce que votre papa sait que vous en avez besoin. Et si tu crois vraiment que c'est ton père, tu dois être tranquille. Le problème, est-ce que tu crois que c'est ton père ou pas? C'est là la question. Est-ce que tu es converti ou pas? Est-ce que tu es chrétien ou pas? La question est là. Si tu es vraiment chrétien, donc Dieu est ton père. S'il est ton père, il sait que tu as besoin de payer le loyer. Il sait que tu as besoin de payer des vêtements. Il le sait. Au contraire, tu peux venir, comme il est écrit dans Hébreux 4, 16, avec assurance auprès du trône de la grâce. Demandez ce dont tu as besoin. Il n'y a pas de problème. Il dit, c'est les païens qui s'inquiètent. Et aujourd'hui, les prix montent. Il y a même des chrétiens qui sont déstabilisés. Aïe, les prix montent. Et alors, moi, quand on dit à la, on m'a dit, oui, mais le pétrole a atteint encore 126 dollars. Moi, j'ai dit que ça atteint 400. Donc ce n'est pas mon problème. Donc, les infos sont là. Prix du pétrole, ça a battu le record. Record, 126 dollars. D'accord. Nous, on attend que ça atteigne 400. Ce n'est pas notre problème. Nous allons marcher avec des voitures à eau. Donc, si Dieu doit les inventer, il va les inventer. Il n'y a pas de problème. Si on doit revenir à vélo, on reviendra à vélo. Mais on sera toujours heureux. Dieu pourvoira à nos besoins. La Bible dit les nations s'agitent. Les royaumes s'ébranlent. Mais le peuple de Yahvé est toujours dans la paix. Psaume 46. Toujours dans la paix parce que Dieu s'occupe de tout. Et Dieu est mécontent de voir l'attitude des chrétiens qui sont en train de trembler comme des saucissons bien-aimés. Non, revenons à la parole où on sait que Dieu pourvoit à nos besoins. Et c'est la vérité. Faut prendre le risque. Ça demande de prendre des risques pour vérifier que Dieu est Dieu. Mais on ne peut pas en même temps bien conserver sa poche et vouloir vérifier que Dieu est Dieu. Non, on ne peut pas. Il faut vider la poche pour réaliser que Dieu est Dieu, quoi. Et c'est pourquoi moi je suis content de la crise économique mondiale. Donc ça va nous approcher davantage de Dieu. Parce que beaucoup s'accrochaient à la sécu, au RMI. Bientôt ça sera supprimé. Donc, on va voir sur quoi tu vas t'accrocher. Donc, on va envoyer des avions pour la Birmanie, pour ceux qui en auront marre de la France, bien-aimés. Nous devons revenir à Dieu et être heureux une fois pour toutes parce que Dieu nous aime plus que les oiseaux. Il pourvoira nos besoins plus que les oiseaux. Et si les oiseaux ne se sont jamais plaints, ils sont même pas au courant qu'il y a des crises économiques mondiales. Mettez-vous à la place d'un oiseau. Il n'est même pas au courant que le pétrole a atteint 126 dollars. Donc il est tranquille. Comme Luther, le théologien, avait dit, à chaque matin il se lève, il entend les oiseaux chanter. Il dit, oh, bonjour les théologiens. C'est vous qui connaissez vraiment Dieu. Nous, on lit la Bible, on ne connaît même pas Dieu. Vous, vous chantez, vous êtes reconnaissants. Nous, on est là, des pauvres vieux à réfléchir trop. Mais c'est la vérité. Mets-toi à la place d'un oiseau. Qu'on lui dise, mais le prix de pétrole atteint 126 dollars. Il va dire, oh. Et alors? Il va dire, et alors? Moi, je suis là. Les arbres sont là. Moi, je vis. Voilà. Bien-aimés, nous, c'est pareil. Nous ne devons pas nous inquiéter. C'est aux païens de s'inquiéter, pas à nous. Même si Satan te dit, mais oui, mais c'est bien beau de dire cela, mais et demain, la Bible dit, demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà ce que dit la Bible. Et Jésus, avec tous ses conseils, on voit la victoire qu'il nous donne par rapport à l'argent. Il dit ensuite, au verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Là, ça devient de plus en plus fort. Il dit, vendez tout ce que vous possédez. Et je vois déjà des raisonnements. Oui, mais c'est pas pratique. Oui, mais bien aimé, la Bible est plus pratique que n'importe quel livre. Donc, quand la Bible dit, vendez tout ce que vous possédez, eh ben donc, sentez-vous sans rien. Quiconque possède est en danger par rapport à la parole de Dieu. Parce que la Bible est claire. Vendez tout ce que vous possédez. Donc, en quelque sorte, vous devez considérer que vous n'avez rien, que vous avez déjà vendu. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver sans tout ce que vous avez. Acceptez cette hypothèse-là. Est-ce que vous l'acceptez? Et si vous l'acceptez, vous êtes dans la Bible. Si vous n'acceptez pas cette hypothèse, vous dites c'est à moi, eh bien vous n'avez pas compris Dieu. Et Dieu vous dira toujours, vous avez des trésors terrestres. Il faut que vous vendiez tout ça et vous ayez des bourses au ciel. Il faut que tu sois libre. Libre par rapport à ta voiture. Libre par rapport à ta maison, libre. On vient, on salit, tu es content. Donc, on vient, on raye la voiture, tu dis merci Seigneur. On a rayé ma voiture parce que et je l'ai vendu. Elle n'est plus à moi. Je l'ai vendu. Vendez tout ce que vous possédez. Bien-aimé, moi je reviens à la Bible. À la Bible. Si on doit me tuer pour ça, on me tuera pour ça. La Bible est la vérité. Vendez tout ce que vous possédez, eh bien, je dois me considérer comme ne possédant rien. Donc, parce que j'ai déjà vendu. Donc, tout ce qu'on peut faire sur mes biens, gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Accident de voiture, gloire à Dieu. J'ai déjà vendu. De toute façon, c'est pas à moi. Mais on n'est pas en train d'encourager l'irresponsabilité ou la négligence. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on est négligent, la Bible dit, ce qu'on sème, on récolte. Il y a des choses qu'on va récolter parce qu'on a sémé des mauvaises choses. Et là même, Dieu nous demandera des comptes lorsqu'on est négligent, lorsqu'on utilise mal les biens qu'il nous donne. Mais je veux parler des choses qui ne dépendent pas de nous, donc qui nous tombent dessus. Nous devons accepter cela avec joie parce que nos biens ne nous appartiennent plus. Vendez tout ce que vous possédez. Vivez en fonction de Dieu et non, ne vivez pas comme si vous étiez des propriétaires. Vivons comme des gestionnaires. Ce n'est pas à nous, mais c'est entre nos mains. Nous gérons en fonction de ce que Dieu nous demande de faire avec. C'est ça, la volonté de Dieu. Et dit, en échange de cela, le royaume vous sera donné, bien-aimé. Moi, j'ai fait des voyages dans des pays pauvres. Mais je suis revenu gros de ces pays-là. J'ai grossi parce que j'ai beaucoup mangé, mieux qu'en France. Mais c'était des pays pauvres. Et il y a même des gens qui m'ont donné 100 dollars. Il y en a qui m'ont donné des vêtements. Mais c'était dans les pays pauvres. Et Dieu a voulu me démontrer que c'était pas le pays pauvre qui était important, mais c'était lui, Dieu. Donc, où que nous soyons, il peut nous bénir et on peut jouir des biens, des richesses. Peu importe là où nous allons. Parce que Dieu est Dieu. Tu peux aller dans un pays riche et tu vas t'appauvrir là-bas. Et tu vas dans un pays pauvre et tu t'enrichis. Parce que c'est Dieu qui a la richesse entre ses mains. C'est ça, bien-aimé, que nous devons réaliser pour notre vie de tous les jours. Pourquoi Dieu nous sert par rapport à l'argent? L'argent, c'est les rapports les plus proches. Et si on arrive à vaincre l'argent, ben on va vaincre aussi le reste. On va s'approcher davantage de Dieu. L'argent nous empêche d'être libres vis-à-vis de Dieu. Et nous sommes bloqués. Nous prenons un autre passage dans Luc 9. Je préfère rester dans Luc, même si les mêmes passages se retrouvent dans Matthieu, parfois beaucoup plus grand et clair. Luc 9. Donc, et c'est plutôt Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison. Amen. Ça aussi, là maintenant nous passons du cadre d'un chrétien normal au serviteur de Dieu. Dieu t'envoie à mission. Et l'ordre de Jésus est dur, catégorique. Ne prenez pas d'argent. Il dit ne prenez ni bourse, ni sac. Bien-aimé, il aurait pu encore dire ne demandez à personne l'argent. Là il va loin. Il dit même toi-même si tu as l'argent, ne prends pas. Va comme ça. Voilà l'ordre qu'il leur donne. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent à dépendre de Dieu. Et quand ils seront dépendants de Dieu, ils seront comment? Toujours bénis, toujours riches, toujours remplis de nourriture, remplis de ce qu'il faut. Parce que Dieu est la source sûre. Mais du moment que notre dépendance vis-à-vis de Dieu diminue, nous perdons des richesses extraordinaires. Du moment qu'on a notre propre sécurité, ça empêche Dieu d'être notre sécurité et nous perdons beaucoup. Beaucoup pensent que, ah oui, je me suis mis déjà à part une bonne partie d'argent à côté. C'est ma sécurité dans tel temps. Bien-aimés, ces gens-là empêchent Dieu d'être leur sécurité. Comme Jésus a dit par rapport à l'homme de Luc 12, il a dit, mais oui, mais après tu vas attraper Alzheimer, qui va profiter de ça? Après tu vas te retrouver dans une maison de retraite, qui va profiter de ce que tu as mis de côté? Tu as oublié que c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui protège. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur nous dit. Du moment qu'on n'est pas dépendant de lui, on s'expose à la souffrance, à la pauvreté, on s'expose à la maladie, à beaucoup de choses. Souvenons-nous du commandement que le Seigneur donne dans Malachie 3 par rapport à la dîme. Il a dit, quand vous donnez la dîme, quand vous donnez ce qu'il faut pour Dieu, eh bien, il menacera le voleur. Il menacera le voleur. Il menacera celui qui amène la destruction. Il n'y aura pas de rouille, ni de teigne. C'est des destructeurs. Il va les menacer. Mais comment peut-il les menacer lorsque l'argent est notre maître? Ce n'est pas possible. Lorsque l'argent est notre sécurité, ce n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup de gens vivent parfois aussi des malheurs dans leur maison parce que Dieu ne peut pas menacer le destructeur parce que ces gens-là n'ont pas abandonné leur argent entre les mains de Dieu. L'argent est leur sécurité et Dieu aussi ne menace pas les destructeurs. Les destructeurs viennent, ils font ce qu'ils veulent. Dieu nous donne une certaine protection, mais pas maximale, parce qu'on a d'autres protecteurs. Comme on a d'autres protecteurs, Dieu ne se mêle pas de nos affaires à un certain niveau. Il se mêle de certaines affaires, pas de toutes. Mais lorsque on n'a plus de protecteur, on n'a plus que Dieu seul comme protecteur, Dieu seul comme sécurité, eh bien là, qui va toucher à nos enfants? Qui va toucher à ta maison? Qui va toucher? Parce que tout est dépendant de Dieu. Donc Dieu est ton seul protecteur, ton seul recours, ta seule source. Mais qui va te toucher maintenant, à présent? Mais du moment que tu te dis, bon, on s'est déjà mis ça de côté, on a déjà fait ça, ça va faire ça, ça va aider nos enfants plus tard, ça va. Donc ton raisonnement est sur ce que tu t'es mis de côté pour être efficace, tu te trompes, tu as fait appel au destructeur. Quoi d'étonnant que tant de problèmes qui arrivent aux chrétiens, alors que les promesses bibliques sont là. Ces problèmes-là ne devaient pas leur arriver. Bien-aimés, réfléchissons. Revenons à la vérité. Revenons à la vérité. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous devons croire que Dieu pourvoira nos besoins. Nous n'avons pas à aller chercher l'argent, même auprès de nos parents. Moi, j'ai mon frère, j'ai ma sœur, j'ai mon oncle, qui sont dans de bonnes conditions aux États-Unis, mais je ne leur ai jamais demandé un seul franc, un seul euro pour l'œuvre de Dieu. Jamais. Jamais. Parce que pour moi, c'est une question d'honneur. Si c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui doit pourvoir mes besoins et non pas ma famille. Donc, même si elle a une bonne position, c'est Dieu. Je refuse qu'on dise, à un moment, ils ont voulu faire une sorte de réunion pour m'envoyer à l'œuvre de Dieu quelque chose, j'ai prié et ça a échoué. Donc, parce que pour moi, c'est comme si la famille aidait l'œuvre de Dieu. Je suis pas d'accord. Donc, il faut que ça soit Dieu lui-même qui pourvoie par ses voies à lui, aux besoins de son œuvre. Et Jésus l'a dit, ne prenez ni bourse ni sac. Voilà. Moi-même, je pourvoirai. Il dit, quand vous arrivez dans une maison, entrez dans cette maison, vous allez manger. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu permettra qu'il y ait des gens sur votre chemin qui vous aident. Et l'ouvrier mérite son salaire. Mais maintenant, il faut maintenant pas faire de ça une règle. C'est pourquoi Jésus dit, n'allez pas de maison en maison. On va dire, bon, comme on nous a autorisé à aller dans une maison et manger comme on voulait, donc on va aller encore dans la prochaine maison. Non. Jésus a dit, n'allez pas de maison à maison. Suivez mon Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint vous dirigera dans les maisons qui vous attendent. C'est très important. Que ça ne devienne pas un système où on commence à frapper, comme dans certains pays du tiers-monde, les frères attendent seulement midi pour aller frapper, et voilà. Non, il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Et nous donnons encore quelque chose, toujours sur l'argent, et en même temps, je veux autoriser quand même trois questions au maximum, comme je sais que c'est un sujet qui est parfois difficile. Je veux autoriser quelques questions. Et je disais que j'allais donner un autre point. Nous prenons Galates. Galates. Galates 6. Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Alors, voilà comment Dieu a préparé les moyens par lesquels devaient vivre ses serviteurs. Il a dit que ceux qui sont enseignés fassent part de leurs biens à ceux qui les enseignent. Dieu a voulu par là montrer que ceux-ci apportent la richesse spirituelle, les autres doivent apporter la richesse matérielle, et ça s'est mis en commun, et ça fait évoluer les deux ensemble. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Ceux-ci apportent la richesse spirituelle. C'est comme si Dieu a fait que celui-ci puisse travailler, puisse gagner, puisse devenir chef d'entreprise, celui-là puisse se purifier encore en profondeur, croître dans la parole, se mettre à part, pour que finalement tout son corps soit fort. Et il y a d'un côté ceux qu'il a bénis financièrement, de l'autre côté ceux qu'il a bénis spirituellement, pour qu'ensemble il y ait un échange et qu'on marche ensemble. C'est ça la logique de Dieu. Donc ça nous devons l'enseigner, que ceux qui, quand tu es enseigné et que finalement t'es bien, tu ne fais pas part à ceux qui t'enseignent d'une manière ou d'une autre, tout dépend de comment les organisations sont faites. Donc, il y a des organisations où il y a les offrandes, il y a les dons pour faire fonctionner l'œuvre. Il y a, enfin, bref, le Saint-Esprit conduira. Mais en tout cas, ceux qui sont enseignés doivent penser à ceux qui les enseignent, parce que ceux qui enseignent, ils se mettent à part. Parfois, ils travaillent pas à cause de ça. Et donc, ça, c'est une règle de Dieu. Nous devons enseigner cela. Mais nous devons pas mettre la pression sur les gens pour leur dire, il faut donner. On enseigne ce qu'est la parole et on laisse au Saint-Esprit de toucher chacun pour appliquer son côté de la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Tu bénéficies des biens spirituels de la part de quelqu'un, tu dois penser à lui matériellement, tel que le Saint-Esprit doit te guider. Mais sois attentif, sois alerte pour y penser. Voilà, après le Saint-Esprit pourra te guider. Mais si tu n'y penses même pas, comme certains parfois même se disent, je suis jeune, quoi. Il y en a, je vais parler beaucoup, pour eux, ils se disent, je suis jeune, nous... Comme à la maison, on lui prépare, il mange, il ne fait rien, il se dit, il n'a rien aussi à donner. Et beaucoup de jeunes perdent leur bénédiction comme ça, parce que ils attendent de travailler, ils attendent d'avoir une famille pour commencer à donner au Seigneur. Et ils sont bloqués dans beaucoup de domaines à cause de cela. Parce que quand Dieu permet que tu aies 5 euros, c'est déjà quelque chose. Donc il faut penser à 1 euro, à 2 euros, à bénir Dieu. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais l'âge de 11 ans, quand je découvrais un très bon gâteau dans une pâtisserie à l'extérieur, j'ai gardé un peu pour ma mère. Quoi. Voilà. Quand on aime quelqu'un, pourtant, elle devait connaître des choses beaucoup plus meilleures. Mais à mon niveau, moi, j'ai eu l'occasion de découvrir un très beau gâteau, mais je pense à la personne que j'aime. Je vais faire goûter à ma mère. Et voilà, ce n'est pas une question financière, c'est une question d'amour. Donc si vraiment on aime Dieu, même quand on a 2 euros, 5 euros, ça ne nous empêche pas de penser à lui, parce que c'est notre amour. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne avec lui, dans une logique d'amour. Je refuse une logique de pression, on dit faut donner, non, ça c'est pas la logique de Dieu, c'est une logique d'amour, une logique de compréhension. Je reçois les biens spirituels, moi j'ai reçu les... Je reçois les biens spirituels de quelqu'un. Moi, lui qui a reçu ces biens spirituels de la part de Dieu. Moi, j'ai reçu les biens matériels de la part de Dieu. Nous mettons en commun, ensemble, et nous fonctionnons dans le même corps. C'est ça la logique de Dieu. Donc, il fait grâce à chacun pour qu'on mette tout cela ensemble. 1 Corinthiens 12, 7. Donc, il nous doit donner chacun des dons pour qu'on mette ça pour le service commun. C'est ça. Donc, le don que tu as, ça peut être ta voiture, ça peut être, tes muscles. Donc, mets tes muscles au service de ceux qui chantent, par exemple, ils n'arrivent pas à porter le haut-parleur. Toi, tu mets tes muscles, tu viens porter le haut-parleur. Donc, c'est comme ça qu'il y a échange qui se fait et nous progressons tous ensemble. C'est très important. Donc, je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais je crois que le Seigneur a voulu nous rappeler ce problème-là de l'argent. Qu'on ne soit pas inquiet, qu'on demeure vraiment dans la vérité. Notamment ceux qui sont appelés à devenir serviteurs de Dieu, qui sont en train de penser, je vais vendre nombre de CD, je vais m'enrichir, je vais vendre nombre de livres, je vais m'enrichir. Ce n'est pas de Dieu tout ça. Il n'y a pas de commerce dans l'œuvre de Dieu. Nous devons chercher les moyens les plus simples de distribuer les choses sans bénéficier de ça. Donc même, vous savez, les gens qui vendent les Bibles, ils s'enrichissent pas. Parce qu'ils vendent ça au prix inférieur de production. Parce que une Bible, ça coûte très cher à fabriquer, mais comme il faut que ça se répande, il y a des organismes qui soutiennent, qui financent afin qu'on les vende, mais à un prix potable. Donc le but, ce n'est pas l'enrichissement, parce que quelqu'un me dira, mais vous vendez aussi les CD, c'est pareil. On vend ça à un prix qui ne nous enrichit pas, qui est formel, parce qu'il faut bien que quelqu'un se définisse s'il veut avoir un CD ou pas. Mais tout en maintenant la gratuité, si quelqu'un n'a pas l'argent, on lui donne gratuitement. Il peut graver, il peut copier. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que quelqu'un ne se sente pas bloqué par rapport à l'argent pour évoluer avec Dieu. Et que nous tous, nous puissions considérer que l'argent est dangereux et il peut nous nuire, nous détruire. Tout ce qu'on a comme bien, possession, considérons-le comme vendu à Dieu, vendu et donné en aumône aux autres. Et soyons prêts à ce qu'on manque de tout, mais nous ne manquerons jamais de Dieu. C'est pourquoi le roi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Salomon qui s'est enrichi, bien aimé, il s'est enrichi à cause de quoi? De la sagesse que Dieu lui avait donnée. Les gens venaient le visiter pour sa sagesse. Et ils venaient avec des cadeaux. Donc Dieu peut t'enrichir. Même rien qu'avec la sagesse, il peut t'enrichir. Dieu est tout puissant, bien aimé. Faisons confiance en Dieu. Marchons dans la logique que nous venons de lire dans la Bible. Et il y a d'autres versets encore qui parlent de l'argent. Jésus-Christ a vaincu l'argent. Il a vaincu l'argent totalement en mettant comme trésorier un voleur. Il a mis un trésorier voleur. Donc il n'avait pas peur qu'il prenne tout. Parce qu'il savait que son argent vient de Dieu. Donc même si lui il prenait tout, Dieu sait comment il allait se débrouiller. Il savait que Judas était mauvais dès le départ. Mais il a mis quand même là. Et quand vous lisez dans l'évangile, dans Jean 12, Jean dit bien que c'était un voleur. Il prenait ce qui était dans la caisse. Mais Jésus l'a laissé toujours trésorier. Je sais que nous, à notre époque, on va dire, on change de trésorier parce que là, il a déjà volé deux fois. Donc, on change vite. Il risque de vider les caisses. Mais Jésus a laissé parce qu'il savait que l'argent était surveillé par Dieu directement. Il a vaincu l'argent jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Soyons vainqueurs jusqu'au bout de l'argent. Même quand nous sentons que, aïe, ça va partir, ça part là. C'est pas ton problème. Ça part, ça va revenir. Encore plus grand qu'avant. Amen. Voilà, s'il y a deux ou trois questions, rapidement, on les pose. Sinon, nous allons clôturer et prier que le Seigneur nous aide. Voilà, comme il n'y a pas de questions, nous allons... Voilà. Mais j'avais dit depuis longtemps, le micro, s'il te plaît, tu peux l'avancer. Hein. Oui, dans ce cas, tu peux citer, comme ça, moi, je vais... Un roi 10, verset 14. Voilà. Qui parle de 666. Oui, je sais que beaucoup, ça allait les choquer. Hein. Donc, on parle de 666. On se souvient que dans l'Apocalypse, on dit que le 666, c'est un nombre d'hommes. Donc, c'est quelque part un nombre d'élévation maximale de l'homme. Donc, Salomon avait atteint une richesse maximale. Donc, liée à l'humain, quoi. Mais c'est lié à l'humain. Donc, c'est ça fait référence à ça. Oui, question.
Je voulais savoir ce qu'on pourrait faire, disons, en tant que serviteur, quand on a, je sais pas, peut-être que c'est de moi-même, mais quand on a un souci ou bien pitié des gens qui n'ont pas la possibilité la possibilité d'avoir l'argent pendant qu'en tant que chrétien, on se dit qu'on peut les aider à, s'il faut dire, s'enrichir, mais on voit que c'est des païens. Et nous, on est chrétiens. On se dit, bon, mais je peux les aider, mais entre-temps, on se dit, mais est-ce que ça ne peut pas les pousser à l'excès, par exemple? Mais c'est des païens, quoi.
Oui, moi, je crois que le Seigneur nous le montre dans lui-même, dans Luc, quand on a lu Luc 12 et puis dans Matthieu 6, que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Donc, pour les païens, ce qu'il faut faire, c'est commencer par leur enseigner la parole de Dieu. Et si, en enseignant, on peut leur apporter ce qui est nécessaire pour, comme à chaque jour suffit sa peine, on le fait. Mais on ne peut pas chercher à les enrichir comme ça, comme si la richesse était la solution. C'est le Seigneur qui est la solution, c'est l'Évangile qui est la solution. Mais maintenant, en même temps que l'Évangile, on peut faire certaines actions sociales. Voilà. Mais nous devons, nous, dans notre raisonnement, penser d'abord Évangile. Ensuite, dans l'Évangile, penser à action sociale. On ne peut pas mettre l'action sociale avant l'Évangile. Sauf pour les choses du genre, donner la nourriture à quelqu'un. Ce n'est pas obligé qu'on lui parle de l'Évangile. Mais pour des choses à long terme, des constructions comme ça, il faut qu'on mette d'abord l'Évangile en avant. Oui.
Mais quand tu rencontres des gens dans la rue qui te demandent quelque chose, en fait, la parole de Dieu nous dit « donne à celui qui te demande ».
C'est ce que j'ai
donc,
dit.
Donc, en fait, on donne sans se préoccuper de ce qu'ils vont faire.
Non, là, le Saint-Esprit peut aussi nous conduire, hein, pour donner ou pas. Ce n'est pas qu'on refuse de donner, mais le Saint-Esprit peut nous freiner parce qu'il sait que la personne va mal utiliser. Mais nous, ce n'est pas ça notre raisonnement. On ne doit pas chercher ça. Mais ça vient instantanément, le Saint-Esprit te freine instantanément. Nous, on ne va pas réfléchir en lui donnant qu'est-ce qui va se passer. Non, moi je donne parce que je sens en lui un tel besoin. Je donne en fonction de mon cœur. Maintenant, si le Saint-Esprit me bloque, je ne le donne pas non plus.
Parce qu'en fait, en ce qui concerne les Bulgares ou les Roumains...
Est-ce qu'on peut mettre l'autre micro parce que la pile est... Je vais répercuter la question.
Quand on regarde, quand on sait que les Bulgares ou les Roumains...
Voilà, donc il paraît que les Bulgares et les Roumains mendient pour aller acheter des belles maisons dans leur pays, oui. Ok, donc quand on lui a dit ça, elle a dit, d'abord elle était choquée, ensuite elle s'est dit, mais c'est pas mon problème, moi je donne en fonction de ce que mon cœur me dicte, et c'est ça le bon comportement à faire. Donc, on donne en fonction de son cœur. Alors, si l'esprit maintenant nous dit le contraire, on ne le fait pas.
Je voulais aborder sur ce que tu as dit, que quelquefois l'esprit nous freine. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Bon, je n'étais pas vraiment chrétien engagé comme aujourd'hui. Mais il y avait un jeune garçon qui faisait la mendicité. Et ce garçon m'a abordé pour me demander ce qu'il avait fait. Il me demande 100 francs, c'est pas. Je lui dis, tu as vraiment faim? Oui, j'ai vraiment faim, papa, j'ai faim. Il me dit, bon, viens, si tu as faim. Je lui ai acheté une boîte de cornets vifs, qui devait coûter, je crois, 250 francs. Et je lui ai acheté quelques pains, je lui ai remis, mais il a fait un problème, il n'était pas content. Il dit, mais ce monsieur-là, ce papa-là, il est avare. Moi, je lui demande 100 francs. Lui, il préfère me donner la boîte de cornets vifs avec du pain. Alors que moi, j'avais besoin d'argent. En réalité, ce qu'il voulait, lui, c'est avoir 100 francs et aller dans la salle de cinéma, voir les images de cinéma. Ah, il était pas content. Il a boudé. Les gens lui ont dit, mais enfin, tu avais faim. Il t'a donné 200, il t'a donné une boîte de cornets vifs. Il t'a donné aussi du pain. Et toi, tu trouves que c'est insuffisant. Mais oui, mais moi, je voulais qu'il me donne seulement l'argent.
Oui, oui, donc c'est l'exemple de beaucoup d'escrocs comme ça. C'est vrai. Ok. Donc, nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à vraiment vivre financièrement d'une manière biblique, quoi. C'est très important.